Chapitre 19. L'arme dont s'était servi Overton était un Sig Sauer P226X6 équipé d'un chargeur de 19 balles. Le bruit de la détonation avait été assourdissant à l'intérieur du dressing. Quant au pistolet de Jane, malgré la présence d'un silencieux, il s'était révélé plus bruyant qu'il ne l'aurait été à l'extérieur. Mais elle voulut croire que les trois coups de feu n'avaient pas attiré l'attention des voisins. Eu égard au nombre d'ennemis qu'il avait, comme à la nature de ses associés, elle s'était doutée que l'avocat conservait des armes à portée de main un peu partout dans la maison. Le coffre, à lui seul, contenait un arsenal impressionnant puisqu'elle y découvrit, en plus du Sig Sauer, un fusil à canon court, deux revolvers ainsi qu'un pistolet. Celui-ci était un Colt 45 ACP qui l'intrigua lorsqu'elle lut, gravé sur la crosse, le nom de l'un des meilleurs armuriers du pays. L'arme, entièrement refaite, était notamment munie d'un silencieux et d'une hausse nocturne à Aini. Si l'arme avait servi à commettre un crime, Overton ne l'aurait pas gardée. Elle tombait à point nommé pour remplacer son Eckler & Koch qui avait désormais deux victimes à son actif. Il ne s'agissait pas de meurtre, puisqu'elle avait agi en état de légitime défense. Mais même si sa cavale se terminait bien, elle n'avait aucune envie de passer plusieurs années de sa vie à s'expliquer devant les juges. Elle trouva parmi les bagages de luxe d'Overton un sac en cuir à fermeture éclair dans lequel elle enferma le Colt avec son silencieux, ainsi que deux boîtes de munitions et le portable de l'avocat. Ce dernier lui avait menti sur le contenu du coffre, où elle ne trouva que 120 000 dollars sous forme de 12 liasses de 10 000 qui rejoignirent l'arme à l'intérieur du sac. Elle avait remarqué lors de son arrivée que la maison était uniquement protégée par des caméras de surveillance au rez-de-chaussée et dans les couloirs de l'étage. Des caméras à infrarouge, installées au plafond sous des globes de plastique. Contrairement à ce qu'elle s'était imaginé, l'unité centrale ne se trouvait pas dans le coffre, ni ailleurs dans le dressing. Au terme d'un quart d'heure de fouille, armée du trousseau de clés d'Overton, elle finit par dénicher l'unité centrale dans une pièce de rangement voisine du garage. Le DVD glissé dans le lecteur de l'appareil contenait les images des 30 derniers jours et elle le glissa dans le sac de cuir avec le colt et l'argent. Elle n'avait pas quitté ses gants noirs depuis qu'elle avait pénétré pour la première fois dans la maison quelques heures plus tôt, si bien qu'elle n'avait laissé aucune empreinte derrière elle. Elle n'avait pas bu de verre d'eau, pas perdu de sang, rien qui permette de l'identifier grâce à son ADN. Elle avait forcément perdu des cheveux, mais il n'est pas aussi facile pour la police scientifique de les récupérer. Contrairement à ce que l'on voit à la télé. Elle hésita à parcourir les pièces de la maison afin d'éteindre les lumières, de façon à ne pas attirer l'attention des voisins pendant le week-end, mais elle ne put s'y résoudre, à son grand étonnement. Les morts ne se relèvent pourtant pas, et Jane ne croyait pas aux fantômes, mais un blocage l'en empêchait. Elle sortit par la porte arrière, la verrouilla derrière elle avec les clés d'Overton, et enfouit celle-ci dans le sac en cuir. Se déplacer à pied la nuit dans les quartiers résidentiels de Beverly Hills ne manquerait pas d'attirer l'attention de la police, surtout si le suspect concerné avait un sac imposant. Mais il lui fallait bien aller dans la rue voisine où elle avait garé la Ford. Si jamais elle se faisait contrôler par la police en chemin, elle était fichue car jamais elle n'abattrait un flic. Une lune accusatrice était accrochée dans le ciel lorsqu'elle rejoignit le trottoir, mais elle atteignit la Ford sans encombre. Elle reprit la route de Tarzana où elle comptait passer une seconde nuit dans le même motel avant de déménager ses affaires le lendemain. Elle avait décidé de rendre visite le matin suivant au docteur Emily Jo Rossman, la médecin légiste de Los Angeles qui avait examiné l'encéphale de Benedetta Ashcroft, la suicidée de l'hôtel Century City. Le rapport d'autopsie mentionnait l'existence de photos qui avaient disparu. Jane n'avait pas encore planifié la suite. Tôt ou tard, il lui faudrait s'attaquer à Berthold Chenek, mais le surprendre dans sa propriété de la Napa Valley aurait nécessité l'intervention d'un commando de la Navy et non d'une femme seule. Elle avait bien une idée derrière la tête, mais une idée folle que lui soufflait son intuition. Elle se trouvait à la croisée des chemins dans son enquête. Il n'était plus question de revenir en arrière et elle était au bord du gouffre. Si le corps d'Overton était découvert lundi, ses associés au sein de Far Horizons penseraient peut-être que sa mort était liée à ses activités douteuses. mais ils ne risquaient pas de baisser leur garde. Son idée avait beau être dangereuse, Jane n'avait pas le choix.